Bonjour Raymond Richard au micro. Et bien pour cette émission, je reçois Jean-Pierre Husson et avec lui, je lui dis parlons un peu de la chorale Sainte-Ève dont tu t'occupes depuis un certain temps. On ne compte plus, mais c'est quand même quelque chose qui a marqué, parce que je me souviens lorsque l'abbé Maurice me dit « Ah mais c'est la chorale qui a structuré la paroisse Sainte-Ève ». Donc c'est quand même une qualité de dire ça. La paroisse s'est structurée autour de la chorale. Et tu dois être dans la chorale depuis 35, 40 ans, non ?
Oui, 1973, comme musicien.
D'accord. On peut se féliciter parce que vous avez donné un concert il n'y a pas si longtemps. Et on sentait la joie de vivre des gens qui chantaient. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose. La joie de vivre. Parce que dans les églises maintenant, on pleurniche. Enfin, les célébrations sont assez pleurnichardes.
C'est vrai.
Je me suis dit, ah tiens. Et c'est vrai qu'à l'origine, c'était une chorale paroissiale.
Le curé Druc disait à chaque concert de Sainte-Ève, mais comment vous faites à Sainte-Ève pour remplir l'église à ce point? Donnez-moi votre recette. Mais t'as raison de rappeler l'histoire vite fait. Elle a un fondateur, moi je le cite à chaque fois, c'est Pierre Roussel, sans lequel cette chorale ne serait jamais née.
Ah mais c'est vrai qu'il était animateur.
Chorale de quartier née dans l'appartement, dans la petite maison de Madame Gallet. Et Monsieur Gallet.
Qui sont toujours là.
Qui sont toujours là, qui chantent plus, mais qui sont encore très, très militants pour la chorale Sainte-Ève. Et ces 4-5 personnes se mettent à chanter pour animer les messes de la paroisse
qui est le quartier Sainte-Ève. Voilà, on anime.
Et il nous reste de cette époque les vétérans, dont notre vice-présidente Aliette Julien, qui est arrivée un peu après, et puis Edith Denizet, qui faisait partie de ces familles démarrant la chorale.
Famille qui ont démarré la chorale.
C'est quand même assez exceptionnel et on file allègrement en fait vers les 50 ans, toi, j'osais pas le dire. Mais
encore, oui, parce qu'il y a eu les 30 ans l'année dernière, mais après tout, pourquoi s'arrêter en si bon chemin, hein?
Oui. Donc là, 2023 sera peut-être une date importante, on en parlera plus tard. Et l'histoire paroissiale, elle est indissociable de la chorale Sainte-Ève parce qu'effectivement, elle n'est au départ exclusivement que pour l'animation paroissiale.
Oui, c'est ça. Et moi, je me souviens aussi de Pierre Roussel qui, dans certains cas, prenait sa guitare pour aller animer des messes paroissiales à la demande de tel ou tel.
Oui, réellement. Et la guitare n'est pas un instrument anodin puisqu'il offre directement un accès au répertoire, on va dire non classique, pour dire celui de l'orgue, et de tout le répertoire liturgique qui est magnifique, mais qui est très orienté du côté du plein chant, de l'orgue. Et la guitare, elle, au contraire, amène toute la chanson liturgique qu'a fait Florès en France avec Akepsimas, on va dire que c'était de la chanson pop, pour faire
ça. Mais
simple.
Oui, mais ça faisait swinguer les gens. Moi, je me souviens, Akepsimas, on remplissait.
Alors, non seulement ça faisait swinguer les gens, mais les textes eux-mêmes, dans leur tentative d'adaptation de l'évangile à la vraie vie, entre guillemets.
Mais ils ont du sens.
qu'avait du sens et qui pouvait parler aux gens, fait du coup double avec à la fois une musique qui est attrayante et joyeuse, plutôt, et puis des textes qui racontent l'évangile dans la vie, on va dire, pour
se faire
simple.
Oui, c'est ça.
Alors, ça a fait le répertoire de la chorale Sainte-Ève pour l'essentiel dans toute sa première moitié de vie ou presque. Et quand moi je suis venu comme musicien, je n'ai pas ajouté grand-chose à ça, si ce n'est de l'orchestre avec des copains qui nous ont permis de faire plein de choses, avec de la batterie entre autres. Et cette musique-là a marqué définitivement la chorale Sainte-Ève, tout comme ses racines.
Alors, Vincent Cordelette, ça faisait partie de tes copains, bien sûr.
Vincent est un de ceux qui, odieusement, m'a attiré vers la chorale Sainte-Ève par son copain Laurent Castelvi, qui est toujours musicien lui à Dreux et qui, lui, était par ses parents un pilier de la chorale Sainte-Ève.
Voilà, et puis c'était les Drouets, quoi. Les Drouets se réunissent pour chanter, et ça structure une chorale qui donnait vie, voilà, c'est ça, je crois. Et puis bon, y avait les parents, les enfants, et ça suivait, enfin.
Alors c'est très familial, c'est sans doute ce qu'aujourd'hui un certain nombre des anciens de la chorale regrettent un peu, c'est que ce côté familial et transgénérationnel était lié aux gens de l'époque qui avaient 30, 40 ans, des enfants. Qu'ils emmenaient à la chorale et qui ont créé une dynamique tout à fait originale tant que ces enfants grandissaient, mais qui sont partis.
Et qui sont partis comme étudiants ailleurs.
Qui ont eu eux-mêmes des enfants, qui ont construit des vies familiales et qui sont non pas éloignés en pensée de la chorale Sainte-Ève, mais qui ont été amenés à faire d'autres activités. Alors, c'est le privilège de Dreux, qui est une ville de passage, comme tu le sais, où les Drouets de souche se comptent assez vite sur les doigts d'une main. Je parle des générations anciennes et qui sont, au contraire, appelées à vivre quelques années à Dreux et à repartir ailleurs.
Oui.
Et ces jeunes générations-là nous ont amené plein de contacts qui nous ont fait voyager.
Voilà, c'est ça aussi. Il y a un dynamisme, le dynamisme du champ, mais il y a le dynamisme de la vie de relation, il y a le dynamisme de la vie sociale. Et c'est ça aussi qui me paraît extraordinaire. Ça n'a pas le chant pour le chant et la technique du chant. Il y a cette technique et il y a cette joie de chanter, mais il y a le reste.
Et ça fait partie, quand tu fais de la chorale sur un plan local, l'ambition, elle est d'abord celle-ci. Je pense qu'on ne crée pas un mouvement qui dure aussi longtemps sans qu'il y ait localement quelque chose à vivre et à partager. Même si c'est à travers le chant et même si ça reste éphémère. Donc on a sans doute un peu perdu ce côté chorale familiale qui chante, intergénérationnel. Puisque, évidemment, les parents étant restés, ils ont attiré leurs amis qui avaient les mêmes âges. Et c'est comme ça que tu crées des communautés qui, bon, bah, la moyenne d'âge à Saint-Ève n'a pas rajeuni depuis.
Maintenant, oui, c'est ça, il n'y a plus la chorale des jeunes, parce qu'il y avait la chorale des jeunes.
La chorale de jeunes a été créée deux fois, même. Pierre Roussel en avait créé une il y a quelques années, puis elle avait été reprise. Et le courant aujourd'hui est plutôt dans des gens qui ont une soixantaine d'années, 70 ans. J'oserais pas. Si, on peut le dire. Il y a même des doyens de 90 ans et des doyennes qui chantent dans la chorale.
C'est ta maman, non?
Par exemple. Donc, on a encore la petite trace familiale de l'histoire. Mais je pense qu'effectivement, l'esprit communautaire de Saint-Ève, lui, est resté. L'aspect familial a un peu fondu. Je vois pendant la Covid qu'on a traversé, comme on a pu tous, hein, la persistance et la permanence des liens a été incroyablement assurée par des choristes à travers un tas de moyens téléphoniques et autres, pour même si les gens chantaient, même si on se retrouvait évidemment pas en physique pendant plusieurs mois, ne perdre de vue personne.
Et ça, je
reconnais. Ouais, et ça, je reconnais que c'est un. C'est pas moi qui l'ai fait le plus, hein, mais ça a été une belle occasion de ne pas perdre le lien complètement, même si on n'était que 30-35 à se voir par téléphone, par Zoom, par visio, enfin, à essayer de chanter comme on pouvait. L'ensemble du groupe est resté en contact avec des tas d'opérations très sympas qui m'ont permis à la chorale de redémarrer. C'est pour ça qu'on a pu faire un concert là, au mois de décembre.
Oui, c'est ça, il y a un concert au mois de décembre. Et puis bon, la reprise du chant des haies et des murs.
Oui, c'est vrai qu'avait fait une petite opération. Bah, on a eu 5000 vues sur Internet pour une chorale locale, c'est sympa, on s'est bien marré.
5000 vues sur Internet, ouais,
oui. Mais c'était un joyeux prétexte pour justement essayer de faire quand même quelque chose d'original, chacun dans son jardin ou dans son appartement. Mais ça compte, ça a compté, ça a compté.
Je vais les haies qui nous emmurent, je vais les murs qui sont en nous, je vais les haies.
Et est-ce que, enfin, je sais pas, par rapport à la mission d'église, puisqu'à l'origine, pastorale, c'était un objectif pastoral.
Ah oui. Oui, oui, qui est devenu assez vite concertant, parce que quand on attire des musiciens comme Laurent Castelvi, moi, ou Vincent Cordelette et d'autres, l'envie de faire des concerts, elle est là, on orchestre un peu mieux les choses et on va se produire. Mais c'était un complément de la vie paroissiale, c'est vrai.
Mais les gens suivaient, parce que cette dynamique d'aller pour les concerts et ailleurs, non seulement c'est suivi, mais aussi certains m'ont dit, mais pour nous ça a été très important, et même il nous est arrivé une tuile par exemple, et bien les gens chez qui j'étais hébergée m'ont ramené à Dreux parce qu'il y avait un incident dans ma famille, même un accident. Ah ouais. Je trouvais ça assez étonnant, justement cette vie de relation, parce que en douce, c'est bien d'animer les messes, mais c'est quand même intéressant de voir ça, cette vie de relation.
C'est pas du tout un paradoxe. Je pense que les graines, on vient de les rappeler avec l'histoire. Aujourd'hui, on chante un répertoire qui n'est pas majoritairement religieux. je vais le dire avec un peu d'euphémisme, parce que c'est-à-dire qu'on chante pour beaucoup et pour l'essentiel des chansons laïques, issues d'un répertoire que je dirais humaniste.
Mais d'accord.
Ce qui nous permet d'accueillir des gens qui viennent à Saint-Ève pour chanter et qui rentrent dans l'église pour ça, mais qui, j'en sais rien d'ailleurs, ne sont pas des paroissiens ailleurs. Tout comme on a dans la chorale des militants catholiques qui animent dans leurs paroisses respectives à Saint-Rémy, un peu ailleurs. Donc, on est à la fois un creuset pour des gens...
Donc, tu as fait des petits ?
Sans doute, qui sont des...
qui animent leur chorale paroissiale.
Ah, oui. J'aime beaucoup ce mélange-là, parce que pour le coup, il permet d'être, je pense, pour des chrétiens, d'être témoins dans une communauté qui, elle, est extrêmement ouverte. Et puis, je me fais parfois reproche en disant, quand même, tu tires un peu la ficelle loin en allant chercher du répertoire humaniste, ok, certes, mais qui parfois pourrait apparaître comme pas du tout orienté vers une démarche d'église. Et en fin de compte, ce mélange-là, je pense qu'il est productif. Quand le père Liout a décidé de mettre fin à son activité de curé de Dreux, bah, on a sollicité tous les paroissiens de l'agglomération pour venir faire une messe avec lui. Ils sont venus chercher la chorale Saint-Ève, ce qui me paraissait naturel, mais j'ai proposé qu'on fasse un truc extrêmement ouvert à tous les chanteurs qui voulaient des paroisses. Oui. C'était pas l'histoire de la chorale Saint-Ève, la paroisse Saint-Pierre de Dreux centre-ville, heureusement d'autres fidèles. Et bah, finalement, on s'est retrouvé à 35 choristes de Saint-Ève à accompagner l'affaire, ce qui veut dire que cette dynamique-là, qui pourrait être une démarche parallèle ou un peu en marge de la vie paroissiale d'église traditionnelle et classique, bah, permet à des gens de garder des liens, de venir et même de filer des coups de main
dans des circonstances
très paroissiales.
Lorsque vous donnez des concerts dans d'autres églises et que, quelquefois, à votre répertoire n'est pas suffisamment pieux, donc vous ne pouvez pas venir chanter. Comment tu réagis ?
On a connu le cas en 2018, 2 ans avant le Covid, ouais. Je réagis mal.
Non, mais parce que
J'aime bien ce débat-là. Il est important, il a donné lieu à quelques polémiques.
Je pose cette question, ce débat-là, parce qu'il se pose pour la chorale, mais il y a des gens qui meurent qui disent, est-ce qu'on pourrait passer telle chanson ? Souvent, les chansons qu'ils proposent, les gens qui meurent, ils disent, c'est pas yéyé, c'est pas... Enfin, je veux dire que c'est pas n'importe quoi. Et puis, on voit, dans certains cas... des cathos vraiment très... Enfin, plisser un peu le nez parce que ça ne fait pas partie du répertoire des funérailles chrétiennes.
Oui, je suis très, très conscient de cette question-là.
Ça pose quand même question, non ?
Ben, elle nous intéresse parce que dans notre démarche et dans notre histoire de Saint-Ève, partant effectivement d'un répertoire presque exclusivement liturgique, arrivant aujourd'hui avec un répertoire très majoritairement plutôt laïque.
Mais humaniste. Respectueux de l'homme, respectueux des valeurs chrétiennes.
Bon, il n'y a aucune espèce de question sur le sujet. On peut être amené à nous poser la même question. Moi, j'ai la réponse à chaque fois qu'on termine un concert dans une église, même après avoir eu un débat délicat avec les prêtres qui, effectivement, ont charge du respect du lieu et de faire en sorte qu'on n'y fasse pas n'importe quoi. C'est souvent l'expression que j'entends. Je prétends qu'on n'a jamais fait n'importe quoi dans le chorale Saint-Ève, sinon on n'existerait plus. Je vois à la fin d'un concert ce que nous disent les paroissiens locaux, voire les gens délégués par le curé qui, rarement, quand il n'a pas été en accord avec notre démarche, assiste. Ce qui est dommage, hein, parce que ça s'est déjà produit.
Ah bon ?
Et dans ces cas-là, ils ont les mêmes réactions qu'ont ces paroissiens, puisqu'ils se demandent un peu quelle est donc cette chorale qui chante des choses un peu étranges. Et leur réaction est toujours de dire « mais où est le problème ?» Ce qui me laisse à penser que dans la démarche et dans la manière dont on interprète nos chansons, dans le cadre dans lequel on se situe, elles prennent un sens qui, effectivement, n'est pas dans le texte ou dans le contexte, strictement de l'ordre de la liturgie, évidemment, mais qui porte quelque chose d'un message sur lequel on n'a aucune espèce de doute sur la dimension humaniste et chrétienne de l'affaire. Pour ceux qui veulent la voir et ceux qui veulent s'y arrêter en termes simplement de démarche humaniste, solidaire, ils voient celle-ci et c'est déjà ça. Et je pense que comme marchepied, on peut difficilement trouver mieux. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé mieux dans ma carrière.
Oui, je pose cette question parce que légalement, il faut, faut demander l'autorisation aux autorités diocésaines pour faire venir un groupe de musique.
Alors... Ah bon, oui, on le fait à chaque fois. Hein. On le fait à chaque fois. Je comprendrais éventuellement que sur certaines des chansons en plus dans lesquelles, moi, je trouve qu'il y a un engagement ou une question qui me paraît intéressante à poser. Puis en plus, musicalement, il se passe quelque chose. Donc, on la met dans le programme. En la citant hors contexte et chantée par un autre groupe ou par dans d'autres circonstances, elle pourrait apparaître comme choquante ou questionnante. Donc si on la remet dans le contexte de qui on est, pourquoi on chante et pourquoi on est inscrit quelque part dans l'église de Dreux depuis quelques dizaines d'années, je pense qu'il faut juste apprendre à écouter et à voir ce qui se passe avant de commencer à dire là, dans ce texte-là, il y a telle phrase qui est iconoclaste, il y a telle remise en cause, puisque les chanteurs chantent. Hein. Oui. Et Jean Ferrat n'a pas forcément été un pilier d'église. Enfin, vous voyez, tous les auteurs qu'on choisit, qui sont dans le patrimoine français, ne seraient peut-être pas totalement d'accord, d'ailleurs, pour dire comment vous chantez mes chansons dans une église, mais moi, je ne voulais pas. Et je pense que dans la complexité de l'homme, séparer le chrétien d'un côté et celui qui aimerait, je ne sais pas, Brassens de l'autre, me paraîtrait, en tout cas ma culture d'enfance me fait dire que ces choses-là ont toujours été totalement compatibles, et là-dessus je deviens très conservateur. Pourquoi faudrait définitivement les séparer, ce que certains sont tentés de vouloir faire, et dire d'un côté il y a ce qui est la louange du Seigneur et rien d'autre, et de l'autre aller chanter ailleurs, ce qu'on m'a déjà dit, hein, vos chansons qui sont remises en cause ou qui peuvent avoir leur place ailleurs, sur le parvis de l'église et tout ça. Bah, moi, je réponds toujours que c'est une belle manière, en faisant les choses comme ça, de faire sortir les gens de l'église. J'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe pour une partie de la chrétienté aujourd'hui.
Alors, c'est amusant parce que, finalement, je vois aussi beaucoup de... C'est une question que je te pose. Le répertoire classique des chorales les plus classiques et les plus grégoriens, etc., c'est chanté par des tas de gens, mais qui n'ont rien à voir avec l'Église, enfin les Handel, les messes de Bach et compagnie. Et apparemment, dans le milieu laïque, on accepte volontiers qu'il y ait aussi... Alors, je ne sais pas, là, c'est une réflexion qui se pose.
Oui, oui, tout à fait. Et quand on met que deux ou trois chansons, par exemple, Cato, pour faire simple, hein, catholique, dans notre répertoire, et qu'on va chanter dans une salle des fêtes, je suis extrêmement attentif de la même manière à ce qu'on ne vienne pas nous dire « Ah ben non, là, faut pas chanter ces chansons-là ». Mais curieusement, j'ai jamais eu à me poser la question dans ce sens-là, ce qui veut dire que cette tolérance, entre guillemets, ou cette ouverture, on va parler de tolérance, c'est un mot qui est compliqué, mais cette ouverture qu'on constate ailleurs, moi, je prétends que l'Église doit être capable et assez forte de pouvoir la supporter, surtout venant d'une chorale dont, effectivement, personne n'est dupe des origines ni du fondement qui n'a pas grand-chose de laïque. Et donc, ça, pour moi, la question devrait même quasiment jamais se poser, parlant de la chorale Sainte-Ève et de son histoire. Si ce n'est de la pousser dans ses retranchements et au fil des démarches radicalisantes qui se font ici et là, qui traversent sûrement la chorale Sainte-Ève d'ailleurs, hein. Je ne demande pas aux gens de quelles obédiences ils sont, de quelles traditions ils sont avant qu'ils viennent à Sainte-Ève. Et ces séparations-là, pour moi, me paraîtraient terriblement mortifères, pour la chorale Sainte-Ève en tout cas. Question qu'on se pose de temps en temps, hein, bien sûr.
La programmation, c'est toi qui l'as fait, non? Ou c'est ouais, aussi d'autres, ouais. Où il y a des propositions quelquefois,
bah, d'une non, chanson. Bah non, c'est ma petite tyrannie à moi, je suis obligé d'assumer toutes les chansons qui chantent Sainte-Ève.
D'accord, c'est
ça. Ça se fait pas comme ça dans tous les coups, dans tous les groupes et chœurs auxquels je participe. Hein. Oui. Mais à Sainte-Ève, ouais, j'ai assumé depuis de nombreuses années le choix des répertoires. En tout cas, les essais, hein, des répertoires. Il y a des chansons, je vois très bien au bout de trois répétitions que ça ira pas. Mais le costume était pas à bonne taille et on l'abandonne sans.
Ah oui, quelquefois tu sens qu'il y a des choses, c'est pas pour le groupe.
Oui, non, non, c'est soumis aux voix.
C'est soumis aux voix. VOX, là, c'est pas. De toute façon, les voix, c'est toujours VOX. D'accord. Donc,
on raconte, pour conclure cette partie-là, on raconte toujours un peu la même chose. On a fait un medley à Tillières où on avait fait un interchoral avec plusieurs autres chorales.
Oui.
Et j'avais monté avec notre pianiste un medley. D'une dizaine de chansons de Sainte-Ève, plutôt que de faire un répertoire avec 3-4 chansons, chaque chorale en amenant chacune leurs 3-4 chansons. Et j'ai réalisé en faisant le medley que les 8 chansons qu'on avait choisies disaient toutes la même chose. C'était très drôle.
Oui, il y a peut-être ça aussi. Et alors, disaient toutes la même chose, mais l'Évangile dit toujours la même chose, quelque part.
Bah, je crois que la quête de l'humanité, d'essayer de vivre un peu en harmonie, de se faire de ces différences une richesse et pas un combat, d'éviter de créer des cloisons et de séparer les gens dans des cases, c'était ce que les réseaux sociaux savent parfaitement bien faire aujourd'hui et sont en train de fracturer définitivement un certain nombre de gens autour d'idées bien faites et toutes faites. La chanson permet le contraire.
Donc, oui, c'est ça.
Et la polyphonie oblige à prendre en compte des voix différentes. C'est même ce qui fait la beauté de la polyphonie. Donc,
Il y a eu un moment fort dans la chorale, c'était la rencontre avec l'abbé Pierre. Mais les enfants, pour eux, et puis pour les gens, l'abbé Pierre, cette, si j'ose dire, au palmarès des cathos et des saints qui ne sont pas sanctifiés, il y a l'abbé Pierre.
L'amour, c'est la seule richesse que nous avons tous en naissant. C'est un rêve d'enfant, dès que nous sommes devenus grands.
Chantez l'amour.
Seule richesse que nous ayons tous à donner. En sachant bien aimer, on réussit à être aimé. C'est un sentiment que nous avons tous en naissant. C'est un rêve d'enfant dès que nous sommes devenus grands.
Ça a été un moment fort, comment tu l'as ressenti et quels souvenirs en ont les gens?
Alors, ceux qui en parlent ont exactement le même souvenir que celui que tu évoques là. Une des rares occasions où plusieurs groupes venant de plusieurs horizons différents sont associés pour faire une création musicale. Des laïcs, des collèges, l'école de musique de Dreux, la paroisse Sainte-Ève. Enfin, tous ces gens-là n'avaient pas l'occasion de chanter ensemble. Des jeunes, des écoles, des plus vieux, comme était Sainte-Ève il y a 30 ans. Donc ce mélange-là était tout à fait opportun. Et le prétexte, l'excellent prétexte de rencontrer l'abbé Pierre autour de ce thème-là était une rencontre assez incroyable. Ça s'est vu dans tous les enregistrements qu'on a faits avec lui en présence, puisqu'on en a fait deux.
Oui.
Et je pense que ça a rassemblé pour plusieurs années les choristes présents dans cette affaire-là. Ceux que je croise à Sainte-Ève, évidemment, ils sont peu nombreux, mais... Ils s'en rappellent, et ceux que je recroise même au hasard des rues quand on se promène en ville ne me manquent jamais de le rappeler en disant.
Oui, même ceux qui ne sont pas. Oui, parce qu'il y avait la chorale Sainte-Ève plus d'autres chorales.
Oui, et puis ce qui était fort, on sait très bien que les chefs de chœur dont je suis ont parfois effectivement des égos liés au fait qu'ils dirigent 60 personnes qui respirent à leur rythme. Il faut faire attention à la tyrannie du poste dans l'histoire. Et ce disque a pu avoir lieu grâce au fait qu'on a tous un peu rangé nos égos pour faire quelque chose de commun, ce qui était très bien. Donc des gens comme Pierre Roussel à l'époque ont été extrêmement présents pour stimuler les jeunes, les faire venir. Il n'a pas participé plus que ça, mais c'était essentiel. Quelqu'un comme Anshu qui dirigeait la chorale harmonique, pareil. Donc ces gens-là ont accepté de mettre leur groupe et de les mobiliser au service d'un projet commun. C'était chouette.
Parce que ça, là aussi, quelquefois, on se pose la question. Ah, mais comment faire, comment créer des liens, tout simplement. Et là, c'était quelque chose quand même qui...
Bah, puis une cause comme celle de l'abbé Pierre à l'époque est quand même inscrite depuis l'hiver 54, c'est ça?
Oui, l'hiver 54, c'est vrai.
Dans la mémoire française, et c'était quand même relativement facile d'avoir ça comme prétexte utile pour faire quelque chose. Quoi. Mais ça fait dire, il y en a des milliers, des prétextes qui chaque année surgissent et qui permettraient peut-être de faire...
Non, mais c'est fantastique, ça. C'est l'abbé Pierre qui a dit qu'il ne voulait plus qu'on le propose de le nominer parmi les personnalités préférées des Français. Et là, les gens, c'est clair, c'est l'abbé Pierre parce que
ah oui,
bon,
oui,
c'est peut-être, ce serait peut-être Coluche maintenant pour les Restos du Cœur, mais c'est pareil, il est mort, ils sont morts, c'est là.
Mais, oui, c'est ça.
Mais
c'est,
on sent quand
faire,
même
faire
que...
ça de son vivant était une jolie rencontre. C'est faut le nommer, Michel Renard qui était le producteur du projet, le compositeur des paroles, qui avait donc déjà créé cette chanson au Québec, je crois, quelques années auparavant. Et c'est de sa rencontre personnelle avec l'abbé Pierre, ça part souvent de choses comme ça.
Ah bon?
Et de sa connaissance de Laurent Casselli, avec qui il produisait de la musique sur Dreux, que cette petite étincelle s'est faite, voilà. Et aussi parce qu'il n'était pas de Drouge. Là aussi, il y a un mélange qui fait qu'il faut prendre en compte tout ce qui, dans une pâte, sert de levain. Et ce Michel Renard, qu'on a côtoyé que le temps de ce film, il est décédé depuis, malheureusement, avait très habilement rassemblé tout le monde autour de ce projet-là.
Non, mais parce que je vois les enfants parler, on va aller à la télévision, hein.
Ah oui, parce qu'il y a bah, aussi... Plus l'aventure télévisuelle, bah oui.
Il y a eu l'aventure télévisuelle.
Qui était très belle, qui était très belle, oui, parce que techniquement, c'était une jolie histoire.
Oui.
Avec des moyens énormes, hein. C'était les plus grosses émissions de télé de l'époque, hein, qui nous avaient fait venir autour des fêtes de Noël, c'était très très bien. Et ce qui a été très bien aussi, je peux l'ajouter, c'est qu'on a été du coup repéré par un animateur de télé qui s'appelait Patrick Sabatier, je crois à l'époque, enfin qui existe toujours,
oui.
Qui faisait de l'émission de variété et qui avait dit « je veux me payer aussi la chorale de Dreux parce que c'est bien ». Et donc il nous avait demandé après de chanter « Douce France », je crois, dans une émission de variété. Et donc 2 mois après, on a reconstitué le groupe pour autre chose que l'abbé Pierre.
Oui.
Et je dois admettre que ça a marqué la fin de l'aventure parce que l'accueil absolument désastreux de l'affaire, le travail de production fait avec très peu d'humanité, on n'a jamais vu l'animateur par exemple de la journée entière passer à enregistrer ce titre-là, m'a fait dire que l'abbé Pierre était fondateur dans l'histoire. Et que son absence dans un deuxième projet qui nous orientait plus vers une chorale de variété où on chantait
oui,
des trucs
France,
comme ça.
Oui, c'est pas vrai.
Bah non. On l'a fait. L'émission existe. On peut encore la voir. Mais je le vois au regard des enfants, à la manière dont les choristes sont situés, qui sont pas à l'aise, qui sont pas très contents d'être là, qui font le job parce que bah finalement faut le faire. Puis ils espéraient faire une belle aventure. Mais je pense que quelque chose de la magie était moins présent déjà là. Enfin, ils l'ont peut-être pas vécu comme ça, hein, mais moi, je l'ai ressenti dès
qu'on l'a fait. Il n'y a pas eu aussi des parents qui ont craint du vedettariat pour les enfants ?
Oh, je ne sais pas, ça. Je n'ai pas eu d'écho de cette affaire-là.
D'accord. Non, mais je pose la question.
Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, les chorales, c'est toujours quelque chose d'impressionnant. Hein. Il y a des émissions de télé en ce moment. La chorale, elle va en poupe parce que c'est sans doute une forme... Là aussi, de rassemblement
ça
qui marche bien.
Ça permet de retrouver des personnes, quoi.
Voilà. Voilà. Et donc, enfin, la télé semble friande en ce moment de ça. Ils font des choses assez fréquemment avec beaucoup de chorales.
Donc, bon, et puis l'abbé Pierre, voilà, parlons quand même de l'abbé Pierre. En fait, c'était quand même une personnalité. Comment tu l'as ressenti, toi, puisque tu as
Il était incroyable, parce que pour l'avoir rencontré, entendu, alors il y avait à l'époque, je crois que c'était avec la Roumanie, des moments tendus et sociaux qui nécessitaient du soutien national. Et surtout les sujets d'actualité, il était extrêmement encore présent, actif et prêt à se mobiliser. Moi, je reste admiratif de ça. Avec, effectivement, pour le coup, un égo qui n'était absolument pas présent. Il cherchait aucune
espèce de gloire. Parce qu'il y a Hiver 54, il y a le souci des plus pauvres en leur donnant leur place. Mais aussi, c'est un de ceux qui a suggéré que dans l'aide aux pays les plus pauvres, que ce soit non pas payer, mais que ce soit les aider et les aider parce que eux étaient acteurs. Il est un peu à l'origine de des démarches comme de l'éthique sur l'étiquette ou des démarches comme justement acheter des produits qui viennent de ces pays. On aide, mais voilà, c'est pas simplement l'obol que l'on met. Je trouve que c'est quand même une personnalité extraordinaire de ce point de vue-là.
Oui, oui, je dois reconnaître. Ça a structuré une partie de ma vie d'enfant. Ma chère maman était familialement même engagée dans Emmaüs quand Emmaüs était à Dreux, puisque Dreux
oui,
a eu toi
une communauté. Emmaüs, oui.
Et j'ai déjà passé un Noël à manger des huîtres dans le foyer Emmaüs en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette famille ?»
On mange quand même des huîtres dans étrange. Un truc archi pauvre.
Oui, avec du Coca-Cola, c'était original, parce que l'alcool, évidemment, dans les communautés Emmaüs, c'était proscrit.
Ouais.
J'ai des souvenirs marquants de ça, mais en tout cas qui marquent bien le sens de l'altérité que peuvent avoir les cathos, mais ils l'ont toujours.
Le sens de l'altérité, le sens de la solidarité, eh bien, autour de la chorale Sainte-Ève. Merci Jean-Pierre Husson d'être venu parler de cette chorale qui fait partie de la vie drouaise, qui fait partie de ta vie bien sûr, mais de la vie drouaise et qui fait partie aussi de celle de la paroisse Saint-Étienne. Aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous et puis surtout... Participer à ces lieux de convivialité. On en a tellement besoin.